et qui permettait d'alimenter des projets de croissance, d'emploi, etc. Donc, il y a, comme l'ont noté pas mal d'observateurs, on est dans un régime du capitalisme qui est notoirement sous-investissant. Alors évidemment, il en résulte des pertes de croissance et d'emploi phénoménales.
Parce que Frédéric Landon, dans nos esprits, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a le capital et il y a le travail. Hein, c'est comme ça que la vision qu'on a du monde depuis pas mal de temps, depuis du 19e siècle par exemple. Il y a deux forces qui s'opposent. Et aujourd'hui, vous dites non, il y a une troisième force. C'est-à-dire que entre le capital dans le sens de l'entreprise, avec le chef d'entreprise, avec cette aventure que constitue l'entreprise, il y a une force qui contrecarre et qui s'oppose à cette force-là, c'est le travail et l'intérêt des travailleurs. Bon. Or, ce que vous dites, c'est qu'à partir de cette foutue date de 1986, arrive un autre élément, un troisième élément, qui est ce que De Gaulle disait, la politique ne se fait pas à la corbeille. Et tout d'un coup, c'est la corbeille qui fait la politique.
Ah oui, c'est le propre de son hégémonie, c'est à ça qu'on voit le degré de domination qu'elle a acquis sur le corps social. C'est qu'effectivement, une fois de plus, elle a les moyens d'imposer ses réquisites à toute la société. Alors, pas seulement à la politique au sens des politiques publiques, ça d'ailleurs, ça fait belle lurette, mais évidemment à la politique industrielle des entreprises elles-mêmes. Et alors, et bien sûr, ça fait considérablement changer la configuration sociale du capitalisme, et en effet, on passe, pour ainsi dire, d'une configuration, disons, binaire, où la lutte des classes s'exprimait en un affrontement entre le capital et le travail, à ce qu'on pourrait appeler un problème à trois corps. Et finalement, il y a trois entités qui sont en interaction. Il y a le salariat, le travail, si vous voulez, et le capital lui-même est subdivisé en deux sous-espèces, le capital industriel et le capital financier. Alors, un problème à trois corps, c'est intéressant parce que ça ouvre plein de possibilités stratégiques nouvelles. Des possibilités d'alliances parfois bizarres, mais qu'il faudrait pourtant envisager. Hein. On va peut-être y venir dans un instant. Mais le point important, c'est qu'en effet, le capital ne doit pas être saisi comme une entité homogène. Bon, on savait déjà qu'il y avait des petites entreprises et puis des grosses, elles n'avaient pas les mêmes intérêts, ne répondaient pas nécessairement aux mêmes logiques, etc. Mais le clivage essentiel qui fracture le capital, c'est bien celui qui oppose la logique industrielle, qui est celle du développement, de la construction de l'empire, de la réalisation de choses, et puis celle qui est la logique du capital patrimonial, qui ne connaît pas autre chose que l'accumulation financière et la rentabilité pour la rentabilité. Le capital financier, à la limite, ça lui est tout à fait équivalent d'investir dans une usine de yaourt ou dans un fabricant de centrales nucléaires. La seule chose qui compte pour lui, c'est, au bout du compte, quel est le taux de rentabilité qui va sortir de ce tuyau-là. Et si le taux qui sort du tuyau central nucléaire baisse, qu'à cela ne tienne, on se rabattra sur le tuyau des yaourts. Et ceci sans le moindre affect, dans la plus parfaite indifférence aux choses faites.
Quelle que soit la casse sociale éventuellement, ça n'a aucune importance.
Oui, alors ça c'est carrément la dernière roue du carrosse, effectivement. Là, c'est une considération de quatrième ordre pour ces gens-là.
Alors que dans le capitalisme industriel et celui qu'on va regretter dans un instant, c'est-à-dire le capitalisme paternaliste, les patrons, hein, pour reprendre cette catégorie, avec un chapeau 8 reflets et puis un gilet avec une chaîne de montre en or, est obligé quand même de tenir compte de ses employés, de ses salariés, de ses travailleurs.
D'abord, je pense qu'il faut une analyse de la configuration actuelle du capitalisme, qui est tout de même tellement rude pour le salariat d'aujourd'hui, ne doit pas conduire à une relecture enjolivante ou mythificatrice du capitalisme du passé. C'est pas tant que le capitalisme industriel porterait en soi une espèce de vertu intrinsèque de dialogue social, c'est plutôt que, sans la contrainte financière, sans la contrainte actionnariale, le capitalisme industriel peut s'adonner plus librement à ses propres pulsions de développement, de croissance et d'expansion, et que dans cette pulsion-là, dans une certaine mesure, le salariat peut y trouver son compte. Il peut y trouver son compte sous la forme d'investissement, de croissance, c'est-à-dire d'emploi, pour ce qu'il concerne, en dernière analyse. Donc le capitalisme industriel, tant qu'il n'est pas borné par la finance et limité à produire des investissements d'une rentabilité faramineuse, le capitalisme industriel est plus généreux en emploi et en projet de croissance dans lequel le salariat trouve à s'inscrire, alors d'une manière qui ne lui fait pas faire de quelque façon qu'on attrape le problème, qui ne lui fait pas faire l'économie des luttes sociales. Mais ces luttes sociales sont toutes choses égales par ailleurs rendues plus faciles. D'ailleurs, c'est très simple, c'est que les agents du capital industriel sont un peu retors et hypocrites à leur manière, maintenant qu'ils vivent objectivement sous la contrainte actionnariale, ils savent très bien renvoyer la patate chaude aux étages supérieurs.